einmal ein Wunder geschehen. Und ich weiß, dass wir uns wieder.
Yaramı sarma, yaram derindir. Ümraniye'nin orta yerinde çiçekler öldü ellerimde. Ümraniye'nin sızısı inceden inceye birikiyordu. Yangından kopmuş bir közdü ilginç. Betonda al bir alev rüzgarın söndüremediği. Yaramı sarma. Çekilmesi gereken sancı firesiz damla damla çekilmişti. Artık sabır, acıya usta bir volkandır Ümraniye'de. Ümraniye mapusunda dört can, insanın en güzel yanıydı. Ve onlar, yarına gidenlerin soluğuna katıldı.
İstanbul bu kaçıncı yiğittir? Sevdanın yolunu zafer eyleyen.
İstanbul bu kaçıncı yiğittir? Sevdanın
mahpuslardan taşan gökyüzüyüz biz. Teslim olmaz özgür tutsaklarız biz.
Mahpuslardan taşan gökyüzüyüz biz. Teslim olmaz özgür tutsaklarız biz.
inan çünkü mavi gökyüzüz biz.
Türmü zindanlarına hiç sığmayan, teslim olmaz özgür tutsaklarız biz. Recep Rıza Orhan Gültekin'iz biz.
Wenn die Sintflut kommt, dann alles so. nur ein Traum. Bei hellem, klarem Tageslicht hat das doch alles kein Gewicht. Nur in der tiefen, schwarzen Nacht wirst du von der Angst gepackt. Ich bin ein Traum. Ich mach dich nachts zum Zittern, vibrieren in der hellen Wand. Ich spieß dein Kopf auf eine Latte und dann frisst ihn ein fetter Ratten. Und als die ganze Nacht laut wie Jennifer verhaut, ich töte dich 1000 Mal, ich töte dich 3000 Mal, ich töte dich 5000 Mal, ich töte dich 10.000 Mal, ich töte dich 6000 Mal, ich töte dich millionenfach, ich töte dich billionenfach, ich töte dich trillionenfach.
Ich jage dich und du entkommst mir nicht.
Ich mach dich nicht zum Attentäter,
zum Verräter. Ich jage dir den Schweiß
von der glatten Stirn bis tief.
Les exigences de la civilisation contemporaine ont encore engendré une forme très spécifique de la littérature que l'on appelle journalisme. Je ne peux passer sous silence cette nouvelle forme littéraire, car en dehors du fait qu'elle n'apporte absolument rien de bon pour le développement de l'intelligence, elle est devenue, à mon avis, le mal de ce temps. En ce sens qu'elle exerce l'influence la plus funeste sur les relations mutuelles des hommes. Station. Orgueil, et ainsi de suite. Afin de vous dépeindre sommairement tout le mal que fait à l'homme cette nouvelle forme de littérature, je vous raconterai plusieurs événements déclenchés par la lecture des journaux et dont la réalité ne fait pas de doute pour moi, puisque le hasard a voulu que j'y participe. À Téhéran, l'un de mes amis intimes, un Arménien, m'avait désigné en mourant comme son exécuteur testamentaire. Il avait un fils, déjà d'un certain âge, que ses affaires obligeaient à vivre avec sa nombreuse famille dans une grande ville européenne. Or, au lendemain d'un fatal repas, on les trouva tous morts, lui et tous les membres de sa famille. En ma qualité d'exécuteur testamentaire, je dus aussitôt me rendre sur les lieux de cet affreux événement. J'appris que les jours précédents, le père de cette malheureuse famille avait suivi, dans un des quotidiens qu'il recevait, un long reportage sur une charcuterie modèle où l'on préparait avec une propreté sans égale des saucisses faites, disait-on, à partir de produits garantis véritables. En même temps, il ne pouvait ouvrir ce journal ni aucun autre sans tomber sur des réclames recommandant cette nouvelle charcuterie. Pour finir, la tentation devint irrésistible. Et bien que n'aimant guère les saucisses, non plus d'ailleurs qu'aucun des siens, car ils avaient été élevés en Arménie, où l'on ne mange pas de charcuterie, il ne put s'empêcher d'en acheter. Le soir même, ils en firent leur dîner et furent tous empoisonnés. Frappé par cet événement extraordinaire, je réussis par la suite, avec le concours d'un agent de la police secrète, à découvrir ce qui suit. Certaines grosses firmes avaient acquis à vil prix un énorme lot de saucisses destinées à l'étranger, mais qui, par suite d'un retard dans l'expédition, n'avaient pas été acceptées. Pour se débarrasser au plus vite de tout ce stock, la dite firme n'avait pas marchandé l'argent au reporter auquel elle avait confié le soin de cette maléfique campagne dans les journaux. Autre exemple. Au cours d'un de mes séjours à Bakou, je lus moi-même plusieurs jours de suite dans la presse locale que recevait mon neveu de longs articles dont les colonnes tenaient bien la moitié du journal et qui s'extasiaient avec force détails sur les mérites et prouesses d'une actrice célèbre. On parlait d'elle avec tant d'insistance et d'exaltation que moi-même, vieil homme, j'en fus enflammé, et qu'un soir, laissant de côté toutes mes affaires et renonçant à mes habitudes, j'allais au théâtre voir cette étoile. Et croyez-vous que j'ai vu quelque chose qui répondit tant soit peu à ce qu'on écrivait sur elle dans ces articles qui remplissaient la moitié du journal ? Rien de pareil. Au cours de ma vie, j'avais rencontré de nombreux représentants de cet art, des bons et des mauvais, et je peux dire sans exagérer que depuis longtemps déjà, on me tenait pour un connaisseur en la matière. Or, sans même faire état de mes conceptions personnelles sur l'art, mais en me plaçant d'un simple point de vue ordinaire, je dois reconnaître que je n'avais jamais rien vu de comparable à cette célébrité, quant au manque de talent et à l'absence des notions les plus élémentaires sur l'art d'interpréter un rôle. Dans toutes ces manifestations sur scène, il y avait un tel manque de présence, comme on dit, que personnellement, même dans un élan d'altruisme, je n'aurais pas confié à cette étoile le rôle de fille de cuisine dans ma maison. Comme je l'appris par la suite, certains industriels de Bakou, le type même du gros raffineur de pétrole, accidentellement enrichi, avaient avancé à plusieurs reporters une jolie somme, promettant de la doubler s'il parvenait à faire une célébrité de sa maîtresse, jusqu'alors femme de chambre chez un ingénieur russe, et qu'il avait séduite à l'occasion de ses visites d'affaires. Encore un exemple. Je lisais de temps à autre dans un journal allemand, très répandu, de longs panégyriques à la gloire d'un peintre, et ces articles m'amenèrent à penser que cet artiste était une sorte de phénomène dans l'art contemporain. Comme mon neveu s'était fait construire une maison dans la ville de Bakou et avait décidé, en prévision de son mariage, de se faire aménager un intérieur somptueux, je lui conseillais de ne pas lésiner et de faire venir ce fameux artiste pour diriger les travaux de décoration et peindre quelques fresques. Je n'ignorais pas que cette année-là, il avait eu la chance de forer plusieurs puits de pétrole à gros débit qui laissaient espérer un rendement meilleur encore. Ainsi, ces énormes dépenses profiteraient-elles au moins à ses descendants qui recevraient en héritage les fresques et autres œuvres de ce maître incomparable. C'est ce que fit mon neveu. Il alla lui-même chercher cet illustre artiste européen. Et le grand peintre arriva bientôt, traînant à sa suite toute une cohorte d'assistants et d'ouvriers, et me semble-t-il jusqu'à son propre harem, dans le sens européen du mot bien entendu. Puis, sans se presser, il se mit à l'œuvre. Le résultat du travail de cette célébrité contemporaine fut que premièrement le mariage fut ajourné, et que deuxièmement il fallut dépenser pas mal d'argent pour tout remettre en état, puis faire peindre et enluminer les murs d'une manière plus conforme à la vraie peinture, par de simples artisans, des persans cette fois. Dans le cas présent, il faut d'ailleurs rendre justice aux journalistes. C'est de façon presque désintéressée qu'ils aidèrent ce petit peintre à faire sa carrière par simple camaraderie en modestes scribouillards qu'ils étaient. Comme dernier exemple, je vous raconterai une sombre histoire dont le responsable fut un des pontifes de cette sorte particulièrement pernicieuse de littérature contemporaine. Du temps où j'habitais la ville de Khorassan, je rencontrai un jour chez un ami commun deux jeunes mariés européens et me liai d'amitié avec eux. Ils s'arrêtèrent plusieurs fois à Khorassan, mais toujours pour très peu de temps. Voyageant en compagnie de sa jeune femme, mon nouvel ami recueillait des observations et se livrait à des analyses pour déterminer les effets de la nicotine, de divers tabacs, sur l'organisme et le psychisme des hommes. Ayant rassemblé dans plusieurs pays d'Asie toutes les informations dont il avait besoin, il repartit avec sa femme pour l'Europe et se mit à écrire un important ouvrage où il exposait les conclusions de ses recherches. Or, faute d'expérience, la jeune femme n'avait pas encore appris à envisager l'éventualité de jours noirs. Et pendant ses voyages, elle avait épuisé toutes leurs ressources. Aussi se vit-elle obligée, pour permettre à son mari de terminer son livre, d'entrer comme dactylo dans une grande maison d'édition. Cette maison était fréquentée par un certain critique littéraire qui l'y rencontrait souvent. Tombé amoureux d'elle, comme on dit, ou simplement désireux de satisfaire sa concupiscence, il tenta de la mener à une liaison. Mais elle, enfin honnête et qui connaissait son devoir, ne céda pas à ses avances. Tandis que chez cette épouse fidèle d'un mari européen, la morale triomphait, ce typique individu contemporain, malpropre à tous égards, nourrissait avec d'autant plus de force que sa concupiscence n'était pas satisfaite, le désir de vengeance habituel à ces gens-là, si bien qu'il parvint, par ses intrigues, à lui faire perdre sa place sans le moindre motif. Puis, lorsque le mari eut terminé et publié son ouvrage, ce critique se mit à écrire par rancune dans les quotidiens dont il était le collaborateur et même dans d'autres journaux et revues toute une série d'articles où il donnait du livre une interprétation absolument fausse. Bref, il le discrédita à tel point que ce fut un échec total, c'est-à-dire que personne ne s'y intéressa ni ne l'acheta. Les menées d'un de ces représentants malfaisants d'une littérature sans principe eurent cette fois pour résultat de pousser un honnête chercheur à vouloir mettre fin à ses jours. Lorsqu'il eut épuisé toutes ses ressources et n'eut même plus de quoi s'acheter du pain pour lui et sa chère femme, après s'être mis d'accord, tous deux se pendirent. Par l'influence que leur donne leur autorité d'écrivain, sur la masse des hommes naïfs et faciles à suggestionner, les critiques littéraires sont, à mon avis, mille fois plus nuisibles que tous ces gamins baveux de reporters. Je connaissais par exemple un critique musical qui de sa vie n'avait jamais touché un instrument et qui n'avait donc aucune compréhension pratique de la musique. Il ne savait même pas ce que c'était qu'un son, ni la différence qu'il y a entre les notes Do et Ré. Les anomalies inhérentes à la civilisation contemporaine lui avaient pourtant permis d'occuper le poste responsable de critique musical, puis de devenir une autorité pour les lecteurs d'un journal en pleine prospérité et dont la diffusion était considérable. Ses jugements tout à fait ignares avait fini par inoculer aux lecteurs des opinions définitives, alors que la musique aurait pu être pour eux ce qu'elle est en réalité, une source de compréhension correcte de l'un des aspects de la connaissance. Le public ne sait jamais qui écrit. Il ne connaît que le journal, lequel appartient à un groupe de commerçants expérimentés. Que savent au juste ceux qui écrivent dans ces journaux et que se passe-t-il dans les coulisses de la rédaction? Le lecteur l'ignore complètement. Aussi prend-il tout ce qu'il trouve dans les journaux pour argent comptant. Ma conviction s'est renforcée à ce sujet. Ces derniers temps, pour devenir plus solide que le roc, et tout homme capable de penser de façon plus ou moins impartiale peut faire la même constatation, ceux qui s'efforcent de se développer par les moyens que leur offre la civilisation contemporaine n'acquièrent tout au plus qu'une faculté de pensée digne de la première invention d'Edison et ne développent en eux-mêmes, en fait de sensibilité, que ce que Mullah Nasiruddin aurait appelé la subtilité de sentiment d'une vache.
was gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring turns glass, Papa's gonna buy you a looking glass. And if that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a billy goat. And if that billy goat don't pull, Papa's gonna buy you a cart and bull. And if that cart and bull turn over, Papa's gonna buy you a dog named Rover. And if that dog named Rover don't bark, Papa's gonna buy you a horse and car. And if that horse and car fall down, you'll still be the sweetest little baby in town.
It's a dog-eat-dog world.
Hoop, let the dogs out. Navarro, got the paws out. Got the pedigree, in the arena seat. From the court team, we're going all out. Hoop, hoop, on a smackdown. If it's a dog fight, we won't back down. I'm going out with the knees off. No rain is out, it's back now.
Ben broadcast